Alors, bien sûr, on a parlé de beaucoup de Parcoursup. Il y a beaucoup le ministre Blanquer intervient en ce moment très très souvent dans les médias. Il est très fort pour ça. Mais ce gouvernement a construit une réforme sous forme de puzzle, en quelque sorte, tout en ayant un plan global. Ils ont déjà publié, le ministre Blanquer et le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, ont enchaîné des décrets, des arrêtés, des circulaires, des notes de service, une nouvelle loi pour l'université. Et le ministre Blanquer annonce une nouvelle loi pour 2019. Et là, il va s'agir d'une réforme de structure qui va faire voler en éclats le cadre national de l'enseignement public et le soumettre aux exigences du patronat. Et c'est ce que nous voulons essayer de montrer en abordant chacun des éléments de ce puzzle. Il faut dire aussi qu'actuellement, on discute du budget 2019 et que, bien entendu, le ministre a annoncé qu'on allait dédoubler les CP, qu'on allait dédoubler les CE1. Mais les autres classes sont à 30 avec des effectifs. Alors, je ne vois pas comment on peut renforcer les acquis des jeunes au primaire si on dédouble les premières classes et si on entasse les gamins ensuite. Il prend aux uns pour donner aux autres, c'est-à-dire qu'il supprime 2650 postes dans le second degré au budget 2019, plus des postes de personnel administratif qui sont très importants pour l'organisation des établissements. Et tout cela s'inscrit dans le cadre d'un plan global de suppression de 120 000 postes dans la fonction publique, de 50 000 dans la fonction publique d'État. Or, il faut savoir que l'éducation nationale, c'est la moitié de la fonction publique d'être là. C'est pas n'importe quoi. Et ces suppressions, en fait, c'est un outil efficace pour imposer ces réformes, parce qu'il fait une espèce de chantage. Si vous voulez garder vos postes, il faut vraiment que vous fassiez ce que l'on vous demande. Enfin bon, et puis il met les gens en concurrence les uns aux autres. Et je disais donc que ça participe d'un plan global que Macron a bien défini dans son programme. Il veut une société de mobilité et non plus une société de statut. Alors derrière les mots, les statuts, qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr le statut des fonctionnaires, mais c'est aussi les conventions collectives des travailleurs du privé. Et la réforme du Code du travail a été effectivement un élément central dans la mise en cause de ces statuts. Et il veut en fait une sorte de retour, je dirais, moderne au 19e siècle, où tous les salariés étaient mis en concurrence, sans protection, avec des salaires très bas. Et ce sont, en ce qui concerne l'école, les bases même du système scolaire que l'on connaît depuis des dizaines d'années qui sont attaquées, avec des conséquences pour la jeunesse, bien sûr. La mise en cause du droit aux études, l'individualisation des droits, la mise en cause du droit aux études, on le voit déjà cette année avec Parcoursup, où il y a plein de jeunes qui n'ont pas obtenu de place à l'université. Et pour les enseignants, c'est la mort du statut. Voilà.
En fait, on passe d'une société, là tu es en train de nous dire, qu'on est en train de... Enfin, le projet de Macron, c'est de passer d'une société de protection, on va dire, collective, solidaire... à une société d'individus.
Libérale, on va dire.
Voilà, où chacun se débrouille finalement comme il le peut ou comme il doit le faire, puisque effectivement on met les individus en concurrence.
Oui, c'est ça qu'il
sans
appelle.
Sans leur donner en fait les mêmes outils du départ en fait.
Il appelle ça la mobilité. Mais il faut rappeler quand même que ces protections, elles ont été gagnées par les mobilisations des salariés qui nous ont précédés, aussi bien dans l'enseignement que dans le monde du travail des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a eu des mobilisations très importantes. Bon, je peux faire référence au Front Populaire, à la sortie de la Deuxième Guerre, etc., où ces mobilisations, elles ont arraché ces protections pour les salariés. Et aujourd'hui, c'est ça. Et en particulier les protections essentielles comme la sécu, le droit aux études, etc., qui veut complètement mettre en cause quoi, et détruire.
Donc c'est plus de flexibilité, derrière le terme mobilité, c'est ça aussi, donc oui. Plus de précarisation, moins de protection, et donc effectivement aussi moins de, sans doute... moins de capacité peut-être à s'organiser en opposition collective. quand on est tout seul, c'est plus difficile de s'organiser quand on a une possibilité de s'organiser collectivement.
Vous parlez de la case du Code du travail, c'est exactement de cette façon-là que le nouveau dialogue social s'installe.
Tout à fait. Et quand les salariés ont des acquis communs, ils cherchent à les défendre en commun. Quand ils sont tout seuls, c'est la concurrence et c'est chacun qui sauve sa peau, mais contre les autres. Et évidemment, les employeurs sont très contents dans cette situation, parce que ça permet, y compris, de faire diminuer les salaires en mettant les gens en concurrence, les uns avec les autres, quoi.
Et quand on déstructure aussi une organisation nationale avec des protections nationales qui ont été gagnées, effectivement, ça ne permet pas non plus, finalement, à l'individu de, comment dire, aussi de se référer à un texte ou un ensemble de textes, donc la convention collective ou le code du travail.
Le statut.
Puisque tout est éparpillé et tout est différencié en fonction du lieu où on se trouve. Donc c'est ça aussi le danger. Vous allez nous parler, hein, toutes les deux. C'est de la différenciation sur le territoire, des dispositions en termes d'enseignement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément les mêmes choses dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est, l'ouest, en fonction aussi de la richesse des départements.
Etc. Ou dans les grandes métropoles par rapport à des territoires plus ruraux.
Alors, Claire va parler plus précisément de la réforme du lycée et du bac, mais je tiens à dire que Macron et Blanquer, ils s'appuient quand même sur des lois antérieures. Par exemple, la loi Fillon de 2005, puis la loi Payon de 2013. Mais grâce aux mobilisations, ces ministres n'avaient pas pu aller jusqu'au bout de leur projet. Et là, l'objectif de Macron, c'est d'aller jusqu'au bout de ce projet d'individualisation, effectivement, et de liquidation des diplômes et des cadres collectifs de l'enseignement public.
Oui. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Parcoursup. Ce serait peut-être une bonne idée de revenir dessus, parce que c'est la première chose qu'ils ont mise en place, hein, le système de Parcoursup. Et c'est assez révélateur de ce que doit être la réforme du lycée, la réforme du baccalauréat qui s'ensuit. Donc, le principe de base de Parcoursup, c'est que on affecte les gens en université selon les places disponibles. Voilà, donc il y a un cadre qui est d'ores et déjà restreint pour les affectations. Et donc c'est ce qui justifie aux yeux du gouvernement Macron de faire une sélection à l'entrée de l'université. Comme les places ont été réduites, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il y a eu tout un système pour sélectionner les bacheliers. Donc, évidemment, il y a le dossier scolaire, mais il y a aussi les attendus des universités. Hein. Et on sait qu'il y a eu un énorme mouvement de contestation de ce système-là, autant de la part des étudiants que de la part des enseignants qui étaient dans les universités. Il y a le système de la lettre de motivation. Donc là aussi, c'est un facteur d'inégalité entre les bacheliers, parce que les enfants de familles qui connaissent bien le système vont les aider à faire de belles lettres de motivation, et puis les autres feront des lettres de motivation comme ils pourront. Et évidemment, ça entre en ligne de compte. Enfin, il y avait des points attribués pour tous ces éléments-là. Et on sait que pour les affectations de Parcoursup, la provenance des bacheliers a été très importante. Parce qu'à l'université, les professeurs qui étaient chargés d'examiner les dossiers ont dit c'est tellement nébuleux, tout est tellement nébuleux, que effectivement le lycée de provenance a pris une importance extraordinaire. Et donc il y a eu pas mal de contestations pendant l'été avec des élèves de secteurs moins favorisés que dans les grandes villes qui n'ont pas eu les affectations qu'ils voulaient. Bon, il y a eu vraiment des gros soucis de ce côté-là. Et donc les bacheliers ont attendu, et c'est un des effets vraiment pervers de ce système, ils ont dû attendre et être devant leur ordinateur tout l'été pour savoir où ils en étaient de l'affectation, si ça se libérait, s'ils avaient avancé dans les listes d'attente, etc. Donc, ça a été un énorme stress pour
et avec les là aussi une inégalité pour ceux qui ont le moins de capacité financière. Trouver un logement au dernier moment, c'est extrêmement compliqué.
Évidemment. Voilà, donc. Et donc, des affectations lointaines, on sait très bien qu'il y a des lycéens qui n'iront jamais. Donc là, d'office, c'est une orientation qui est bouchée. S'ils ne sont pas pris dans une université proche, parce qu'ils n'auront pas été choisis, parce que leur dossier n'aura pas été assez ceci ou assez cela, qu'ils n'auront pas correspondu aux attendus de l'université, on sait très bien qu'ils n'iront pas à 500 km de chez eux. Ils n'auront pas les moyens. Donc il y a vraiment, ça a été assez quand même cynique de penser que c'était plus égalitaire, alors que c'est exactement le contraire. Ça a été beaucoup moins égalitaire que le système qu'il y avait auparavant. Et la conclusion qu'on peut tirer de ça, enfin de la question de Parcoursup, c'est que en fait c'est une remise en cause du droit pour tous d'aller à l'université. Et c'est une remise en cause de ce droit par des moyens détournés. Et en même temps, c'est rendre responsables les élèves, les lycéens, les rendre responsables eux-mêmes de leur non-affectation. Parce qu'ils n'auront pas fait la bonne lettre, parce qu'ils n'auront pas correspondu aux attendus. Voilà, tu veux ajouter quelque chose ?
Non, je crois que simplement ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, le ministre, il veut s'appuyer là-dessus pour aller plus loin encore. C'est-à-dire que là, c'était le premier essai avec Parcoursup. Et puis maintenant, ben, on va modifier le bac et on va modifier l'organisation du lycée pour les faire correspondre à ce projet global, quoi.
Donc, on va peut-être parler de la modification du bac à ce moment-là. Mmh. Alors, le baccalauréat, donc, comme les élèves le connaissent actuellement, c'est des épreuves nationales qui sont anonymes pour l'épreuve écrite. Et tous les élèves passent les mêmes épreuves. Donc, ils ont tous le même droit à entrer à l'université. Voilà. Ce droit qui a été remis en cause par Parcoursup. Quelqu'un qui passe le baccalauréat à Vénissieux, il a exactement les mêmes droits que celui qui passe le bac au lycée du Parc. Et on n'a pas à faire de différence entre les dossiers. Donc Parcoursup a introduit ces différences. Le bac ne suffit plus. Le bac n'est plus un passeport pour entrer à l'université. Et donc, l'élément suivant, l'étape suivante, c'est de modifier effectivement le baccalauréat et de modifier le processus des épreuves. Et donc, on a introduit une part assez importante quand même de contrôle continu, puisque ça fait dans les 40%, c'est bien ça, 40% de l'évaluation finale du baccalauréat. Alors la question du contrôle continu, c'est vrai que ça plaît beaucoup aux élèves dans un premier temps, ça plaît beaucoup aux parents.
C'est ce qu'on se disait, ça aussi, ça permet de ne pas être juste sur un one-shot de l'examen où on peut effectivement ne pas réussir.
Oui. Et puis on se disait, enfin moi la première, que c'était peut-être une manière d'évacuer un peu le stress, oui, de l'épreuve unique sur une matière donnée, ça permettait finalement de peut-être d'être un peu moins stressé, de dire que on ne joue pas que sur une épreuve donnée
et sur un sujet que voilà, le sujet qu'on n'avait pas travaillé sur.
Mais apparemment c'est pas aussi simple que ça.
D'abord c'est pas aussi simple que ça, et puis s'il y a des élèves qui nous écoutent, on leur rappelle qu'il faut travailler tous les sujets.
Oui, de toute façon, ça n'empêche pas les épreuves continues pour assimiler aussi les.
Alors il y a une remarque assez amusante à faire là-dessus. Parce que on nous rebat les oreilles de la complexité de l'organisation du baccalauréat comme épreuve finale. Et quand on demande leur avis au chef d'établissement, ils disent le contrôle continu, ça va être une horreur absolue. L'organisation va complètement désorganiser l'année scolaire. Et donc il y a quand même quelque chose dans le bac Blanquer qui est sidérant. C'est que notre syndicat a fait le compte des épreuves de contrôle continu, on peut aller jusqu'à 29 épreuves de contrôle continu en 2 ans. Alors 29 épreuves de contrôle continu en 2 ans, quand vous êtes élève...
Pour le même élève. Ah, c'est-à-dire qu'en 2 ans, c'est-à-dire qu'à partir de la première.
Oui,
c'est ça, c'est-à-dire que le contrôle continu commencerait en première et se poursuivrait en terminale, l'année du fameux bac.
Voilà. Et donc on voit déjà des problèmes d'organisation qu'on a pour le contrôle continu en langue, puisque ça existe déjà. Donc, dans le courant de l'année, il y a des oraux blancs, des épreuves blanches, et puis les épreuves du baccalauréat elles-mêmes, donc organisées par les professeurs du lycée. Et à partir du retour des vacances de printemps, il y a en plus les élèves qui préparent leur Parcoursup, c'est-à-dire qui préparent leur dossier, qui vont passer des entretiens dans certaines écoles. Et donc c'est déjà complètement désorganisé à cause de Parcoursup et du contrôle continu en langue. Alors quand il y aura un nombre conséquent d'épreuves en contrôle continu dans l'année, les élèves, ils vont tout le temps être en évaluation.
Parce que tu viens de rappeler, là, Claire, que Parcoursup, ça commence avant même l'obtention du bac. Hein. C'est-à-dire que il faut déjà s'inscrire dans Parcoursup.
Ils s'inscrivent et ils préparent des dossiers, parce que tout le monde ne va pas à l'université. Il y a quand même de plus en plus d'élèves, et je pense que c'est aussi un des points de la réforme Parcoursup. Il y a beaucoup d'élèves qui ne veulent pas avoir tous les problèmes de Parcoursup et qui vont dans l'enseignement universitaire privé. Et donc, c'est des dossiers, c'est des départs, c'est des cours manqués. Et il y en a qui passent leur temps à ça pendant le dernier trimestre.
Donc en fait, le fait de rajouter comme ça des contrôles continus qui seraient des épreuves validées
pour le baccalauréat.
Pour le baccalauréat. Mmh. Ça rajoute de la complexité.
Ça rajoute encore de la complexité.
Et au niveau de la fiabilité ou de la sécurité de ces épreuves.
Alors, ces épreuves, donc, elles seront organisées dans les lycées par les équipes de professeurs. Les sujets seront pris dans un pool de sujets, mais il faut bien voir qu'il y a deux tentations. Il y a la tentation de s'adapter aux élèves qu'on a, voilà, et là il y aura une inégalité forcément entre les établissements. Il y aura des établissements de centre-ville, il y aura des établissements de banlieue plus défavorisés, bon, et donc on s'adapte. Donc les uns vont essayer de faire en sorte que leurs élèves aient d'assez bonnes notes au contrôle continu en modifiant, en arrangeant et en adaptant. Et les autres vont se dire, nous il faut qu'on ait les meilleures épreuves de résultats du contrôle continu, et donc à faire des épreuves très difficiles parce qu'ils sont dans un lycée particulièrement.
Donc il y aurait une capacité d'adaptation, il n'y a pas un cadre où est-ce qu'on impose les mêmes dates partout. Donc,
alors, pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais du fait que le contrôle continu est organisé par le lycée, chaque lycée aura son contrôle continu et donc c'est 40% de baccalauréat maison. Et comme. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur Parcoursup, il est bien évident que les affectations tiendront compte du lycée qui aura mis au point ses évaluations en contrôle continu.
Parce qu'il existe déjà des formes de classement des lycées, comme il y a des classements des hôpitaux d'ailleurs. Oui. Mais, donc ça rajoutera en fait à cette forme de classement des meilleurs lycées ou des plus mauvais lycées.
Ça rajoutera.
Et ça rajoutera finalement au fait que ce bac, eh ben, ça ne sera plus un outil de...
Et puis c'est que ça confirme vraiment ce que vous disiez sur Parcoursup. En fait, c'est dans la lignée. C'est oui. On avoue ce qu'on avait pas dit avant.
Et actuellement, il y a beau y avoir des classements de lycées qui sont ce qu'ils sont. Hein. Quand on a le baccalauréat national, on a le même droit qu'on soit au lycée du Parc ou un lycée de Vénissieux.
C'est-à-dire qu'on a eu la même épreuve.
On a eu la même épreuve et on a été corrigé. Et voilà, et si on a le baccalauréat, on a le droit d'entrer à l'université. Et donc, avec cette part importante d'évaluation maison, évidemment que le lycée de provenance sera important pour les affectations.
Je voulais juste préciser une chose, c'est que... Bon, dans ce contrôle continu, 40%, il y a 10% de notes qui seront mises en cours. et 30% de soi-disant épreuves communes. Et là, on retombe dans ce qu'a dit Claire, parce que ces épreuves communes, alors qu'au bac, aujourd'hui, les épreuves nationales, elles sont anonymisées, elles sont corrigées par des profs d'un autre établissement. Là, ils disent que oui, ben, il faudra faire de l'anonymisation, etc. Mais c'est impossible. Et c'est pour ça que les chefs d'établissement, ils s'arrachent les cheveux en disant « mais on va perdre un temps fou ». Et les jeunes, ils vont perdre aussi beaucoup de temps, c'est-à-dire que tout ce temps passé à ces épreuves, etc., eh bien, il sera pris sur les heures de cours.
Ce qui voudrait dire que si on veut faire les choses bien, on pourrait faire corriger ses copies par d'autres profs.
Que ceux du lycée.
Mais sauf que, enfin, j'ai l'impression aujourd'hui, même si, enfin, ou hier, parce que ça fait longtemps que j'étais en terminale, que les évaluations, elles permettaient aussi au prof qui connaît l'élève de l'aider à avancer, de connaître ses difficultés. Enfin, on perd tout ça.
Non seulement on perd tout ça, mais si on faisait ce que vous dites, la complexité du bac final aurait lieu à peu près tous les mois. Voilà. Évidemment, on ne peut pas faire corriger par d'autres professeurs.
C'est simplement mettre des marqueurs supplémentaires aux établissements. Et en fait, c'est cette idée qu'on va tout doucement vers l'autonomie des établissements.
C'est ça, exactement.
Donc oui. C'est un des moyens de rendre autonome chaque établissement ou chaque académie. On en reparlera peut-être. On va peut-être faire une petite pause musicale.
Oui.
La vie, si c'est un peu que bon m'a dit algun temps, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Si c'est que no veus les taques on estem tots lligats, si no podem despensa, mai no podrem caminar. Si estirem tot que ja caurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba ben curtat de Déu ser ja. Si tu Siset fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots que ja caurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba ben portada deu ser ja. Si tu l'estires fort
bien, alors ce morceau de musique est un morceau culte en Catalogne. Ici, c'est la version chantée en public en 1976 de l'Estaca, dont on peut résumer la signification en quelques mots. Pour se libérer de ce qui interdit votre liberté, il faut l'unité et beaucoup de patience. Nous avons choisi ce morceau parce qu'Émancipation a participé à la mise en place du collectif de soutien au peuple catalan. Nous pensons que les droits démocratiques des Catalans passent par une mobilisation de tous les travailleurs d'Espagne, de toutes les nationalités d'Espagne, pour la République et pour en finir avec la constitution post-franquiste. Ça, c'est la position d'Émancipation.
Donc on revient à cet effrayant bac en perspective. Donc on disait pendant le morceau que finalement la construction même du bac rejoint l'idée que finalement l'enseignant ne sera plus autonome, y compris dans son parcours pédagogique qu'il choisit tout au long de l'année en fonction des élèves qu'il a devant lui.
Et que ça change quasiment son rôle en fait. Bien sûr, si on devient les préparateurs de toutes les évaluations, parce que c'est ça, hein. On fonctionne vraiment à court terme et c'est assez difficile de prodiguer un enseignement que je dirais intéressant dans cette optique-là. Enfin, nous, ça ne nous plaît pas du tout. Voilà.
Alors, au niveau, on a parlé du bac. On va peut-être parler, parce que le bac, c'est la fin d'un cycle, hein, normalement, cycle du lycée. Mais en fait, la réforme Blanquer touche aussi tous les programmes de ce cycle d'enseignement.
Oui. Alors, il faut toujours en revenir à Parcoursup. Parce que la réforme donc, du lycée, des programmes, les programmes sont en cours de publication. Là, ils sont pas complètement terminé, je pense. Mais l'organisation de la classe de seconde, la classe de première, la classe de terminale, ça, c'est fait. Hein, c'est paru, donc on peut en parler. Et donc, il faut bien savoir qu'il faudra que l'élève, en seconde, quand il entre en seconde, c'est-à-dire quand il sort du collège et qu'il est encore un collégien tout fou, qui se projette pas tellement dans l'avenir, il faudra qu'il sache ce qu'il va faire comme études supérieures. Donc, moi, je ne sais pas comment c'est possible. Parce que si on se rappelle, nous, comment on était à 15 ans, comment étaient nos enfants à 15 ans...
Moi-même, à 18 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Pourtant, j'avais mon bac, hein, mon bac C à l'époque.
C'est ça. C'est ça. Alors, je comprends pas bien cette logique, parce que ça me semble absolument impossible à mettre en place... Et c'est tout à fait normal. Alors ça va être encore une source d'angoisse pour les familles et pour les élèves. Et donc, il faudra qu'ils connaissent les attendus des universités où ils sont censés vouloir aller dans trois ans plus tard, et choisir, en plus de leur tronc commun, des spécialités qui correspondent aux attendus que ces universités réclameront dans trois ans. Tout en sachant que les attendus peuvent changer aussi. En trois ans, ils peuvent très bien modifier un certain nombre de choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de résistance des professeurs des universités pour faire publier ces attendus. Et puis, dans l'ensemble, ils trouvaient que ça n'avait pas grand intérêt.
Je ne suis pas sûre qu'en plus, pour un gamin de 15 ans, des attendus d'université représentent, qui sachent vraiment ce que ça signifie. Et je vais certainement être très naïve, mais est-ce qu'il y a aussi donc, tout un service ou une aide en termes d'orientation qui va exister pour les accompagner? Parce qu'il y aura effectivement ceux qui ont une famille qui peut les aider et ceux qui n'ont pas forcément des parents qui sont à l'université, qui ont les clés aussi pour les soutenir.
Oui, alors... Il y a eu un changement dans les obligations de service des professeurs. Hein. Les professeurs, tous les professeurs principaux sont chargés de l'orientation des élèves. Et les psychologues de l'éducation nationale sont chargés maintenant des décrocheurs. Donc des cas vraiment très compliqués de décrochage scolaire. Et l'orientation normale et habituelle, elle est pratiquement faite, elle doit être faite par les professeurs, donc on a ajouté ça à leur charge de travail, et c'est évidemment, c'est très très difficile à mener, parce que les professeurs ne sont pas des orientateurs, il y a des études pour ça.
Il existait avant des centres d'information et d'orientation.
Eh bien, ils ont été supprimés, les centres...
Alors c'est pas aujourd'hui hein, qu'ils ont été supprimés.
Non, c'est l'année dernière, je crois.
Oui, c'est hier.
C'est hier. Pourquoi ? Parce que le ministère a voulu transférer sur les professeurs la tâche d'orientation qui était faite par ces centres d'information et d'orientation. Et donc c'est d'autant plus difficile qu'on a les élèves en classe, il faudrait un regard extérieur Et ce système, nous, on n'est pas du tout favorable à ça en tant que professeur pour qu'on se charge encore de l'orientation des élèves, parce que d'abord, on n'a pas la compétence, et puis on a une connaissance de l'élève qui est dans notre classe, et c'est pas forcément...
Donc en fait, vous devenez des enseignants multicartes,
c'est ça.
Multidisciplines, multicompétents, mais du coup, il n'y a pas de valeur ajoutée en fait à vos compétences. C'est simplement la diminution de la compétence initiale. On pourrait dire ça.
Je
veux pas être désagréable, mais en même temps, à force de vous donner plus de choses, vous devenez moins spécialiste, on va dire.
Bien sûr.
On va pas parler de compétences, mais moins spécialiste finalement de la matière que vous enseignez au départ.
C'est ça. Et en multipliant les tâches, on en vient à inciter les gens à penser que ce qu'on enseigne, c'est moins important. Et les élèves, à faire penser aux élèves aussi que c'est moins important que l'orientation qu'on va les aider à mettre en place.
Alors, dans la réforme, ça donne l'impression que l'enseignement, il sert juste à dans quelle université je vais et pas du tout
à une formation personnelle.
À l'émancipation, à la...
Acquérir des connaissances, des possibilités, enfin des capacités de réflexion, enfin d'organiser aussi. Sa vie intellectuelle, enfin au sens large.
Oui, mais ça, c'est l'enseignement tel qu'il était et tel qu'on ne veut plus qu'il soit. Enfin, à notre avis, on est quand même assez nombreux à le penser. Et ça, il faut qu'on regarde la réforme du lycée comme elle est proposée pour le comprendre. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un enseignement en lycée qui est en gros humaniste et qui met les matières à peu près au même niveau, avec à peu près les mêmes horaires, et des spécialités en première qui vont accroître les horaires de certaines matières, mais sans vraiment diminuer les autres matières. Donc c'est vraiment un enseignement général pluraliste. Et les scientifiques ont des enseignements de littérature, d'histoire, d'autres choses, de langue. Et les littéraires, bon, ne font plus tellement de mathématiques, mais ils ont la possibilité de faire une spécialité maths actuellement. Ils ont un enseignement scientifique aussi en première. Et avec la réforme du lycée, donc on casse ça et on spécialise énormément les élèves. Donc là, la classe de seconde a encore le tronc commun français, histoire géo, langue vivante 1 et 2, sciences économiques et sociales, maths, physique chimie, SVT, EPS. À partir du deuxième trimestre, ils doivent commencer à se demander quelles spécialités ils vont choisir en première. Parce que c'est en première que ça va se révéler tout ça. Donc en première, on a un tronc commun où on a les mêmes matières, donc français, histoire géo, enseignement scientifique, au pluriel. Donc on ne sait pas bien ce que c'est, enfin on suppose que c'est physique et SVT, langue vivante 1 et 2. EPS, et puis éducation morale et civique. Bon. Comme on voit, dans ce tronc commun, les mathématiques ont disparu. Il n'y a plus de mathématiques en tronc commun. Voilà. Ça veut dire que les élèves qui vont envisager des études scientifiques, tout va se jouer sur les trois spécialités qu'ils doivent choisir, plus les deux spécialités qu'ils choisiront en terminale, s'ils veulent correspondre aux attendus des universités où ils voudront candidater. Donc, ils devront choisir trois spécialités scientifiques en première, on suppose. Ce qui veut dire que, par exemple, la langue et littérature étrangère, ils vont être obligés de la laisser tomber. Et ils n'auront plus que les deux heures en langue vivante 1 et 2 heures en langue vivante 2 pour apprendre les langues, hein, pour se perfectionner en langue. Et donc c'est vraiment très très insuffisant. Et pire que ça, ils ne peuvent prendre que 3 spécialités en première. Donc mettons qu'ils prennent obligatoirement mathématiques, évidemment, à 4 heures, plus physique-chimie à 4 heures, plus SVT à 4 heures. Ils ont leurs 3 spécialités. Donc tout le reste est dégagé. En terminale, il faut qu'ils lâchent une de ces spécialités. Donc on ne peut plus faire mathématiques, physique et SVT. On va lâcher la SVT. Là, actuellement, les professeurs d'enseignement scientifique dans nos lycées disent « C'est certain qu'on est en train de supprimer la SVT du cycle terminal. » Voilà.
Donc, en fait, on construit... Enfin, l'élève va choisir... Ou l'élève, ou ses parents, d'ailleurs, vont choisir un certain nombre de choses. Donc, ça sera presque un enseignement, là aussi, à la carte, hein, si je comprends bien, dans un cadre donné. Mais, donc, il y aura des options, des matières à choisir obligatoirement. Il n'y aura pas droit à l'erreur, finalement, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Hein, c'est ce que j'ai bien compris.
En fait, on parlait de choix, mais on limite beaucoup ces choix pour la suite.
Et en fait, on formate des individus dans des domaines qu'on voudrait très spécialisés.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... comment dire de...
Il n'y a plus d'élargissement des connaissances, de la culture.
Et ni la capacité de se réorienter au fil du temps.
C'est ça. Aussi.
Chaque élève devra choisir son parcours. C'est extrêmement compliqué de choisir son parcours, de fabriquer son parcours.
Et dès la première.
Oui, voilà.
Ça commence en seconde. Il faut qu'ils disent quelle spécialité ils vont choisir.
S'il se trompe, s'il pense qu'il voudrait faire autre chose, c'est terminé pour lui. Il ne pourra pas revenir en arrière. Et c'est ça qui est dramatique pour les jeunes.
Et par exemple, on leur permet pas de s'intéresser à plein de choses.
Voilà,
finalement.
C'est ça.
Et on se coupe plein de possibilités dès l'âge de 16 ans, en gros.
Oui, on réduit leur formation générale. Chaque discipline participe à sa façon, à la culture générale d'un jeune, quoi, qui est nécessaire pour réfléchir, pour comprendre le monde, etc. Et là, on réduit, c'est très... on est branché uniquement à ce qui est utile, c'est tout. Utilitariste comme...
Oui, c'est ça. Mais... En fait, il faut que ça soit utile à la...
À son orientation future.
Professionnelle. Voilà. En fait, c'est ça. Mmh. Ça, c'est pour l'enseignement général, dit général. Mmh. Pour les enseignements, les bacs professionnels, etc., ça, c'est... on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui.
Non, mais... peut-être pas, parce que...
On peut dire deux mots, c'est encore pire. Parce qu'il y a une réforme, justement, de l'enseignement professionnel. Et bon, c'est le CAP pourra être préparé en un an, deux ans ou trois ans. Donc, il n'y aura plus d'unité dans les CAP. Il y a une diminution drastique des heures d'enseignement dans l'enseignement professionnel. Et les bacs pro seront définitivement rayés des possibilités de faire des poursuites d'études.
Et il faut dire aussi que ceux qui font le CAP en un an, deux ans et trois ans, ils seront de toute façon dans les mêmes cours.
Alors, si moi je comprends bien, parce qu'il reste un quart d'heure, donc... sous couvert, je ne sais pas, de moderniser, on va dire, l'éducation nationale, on complexifie finalement les choses, on réduit les possibilités de formation générale.
C'est ça.
Et on réduit aussi les possibilités ultérieures pour chaque individu de choisir ou de se réorienter à un moment donné, parce qu'on peut faire tous des erreurs, des choix, et puis on peut évoluer aussi en fonction de ce qu'on connaît. Mais si on ne connaît pas, on ne peut pas envisager même de faire les choses.
C'est ça. Et le corollaire à tout ça, évidemment, c'est qu'il y aura des élèves qui se tromperont, évidemment. Nous, on en a tous les ans, et qui voudront se réorienter. Et bien là, il y aura les officines privées qui feront des rattrapages de cours et des cours de maths s'il n'y en a pas eu, etc. Bien sûr, mais on est dans la même logique dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est quand même des différences basées sur les moyens, hein, sur l'argent. Les gens ont l'argent ou n'ont pas l'argent. Et puis...
Et moi, j'imagine, je peux imaginer des parents, même des parents. Alors, on disait des parents qui maîtrisent pas forcément bien non plus. Par exemple, on parlait des migrants tout à l'heure. des parents qui sont là, ou même d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance aussi d'avoir une scolarité complète, etc. Comment vont-ils s'en sortir dans ce labyrinthe des possibilités qui semblent offertes, mais en fait qui referment complètement les possibilités de choix? Parce que quand on a trop, quand on ne sait pas choisir, on ne peut pas choisir, en fait.
Bien sûr. Et en plus, le lycée à la carte dont parle M. Blanquer, c'est quand même assez illusoire, parce que toutes les spécialités ne seront pas dans tous les lycées, de toute façon. Il parle de 7 spécialités classiques accessibles dans un périmètre raisonnable. Actuellement, enfin, je peux les passer en revue, je ne sais pas si c'est nécessaire, bon, mais ces spécialités, elles sont dans tous les lycées actuellement. Et ce qui va se passer, c'est que avec le regroupement des lycées en bassin, par 3 ou 4 établissements, et la mutualisation des moyens, comme ils disent, ils vont faire passer une spécialité dans un lycée en la supprimant dans les 2 autres, par exemple. Voyez ? Et donc, souvent, les élèves vont devoir faire un choix. Est-ce que je reste dans mon lycée qui est bien ? Ou bien alors, est-ce que je vais dans l'autre qui a la spécialité que je veux ? Voyez ? Il va y avoir ce problème-là. Quant aux 5 spécialités qui sont plus rares, et qui sont actuellement aussi dans les lycées, il y a art, littérature, culture de l'Antiquité, il y en a à peu près dans tous les lycées, sciences de l'ingénieur, il y a quand même beaucoup de lycées qui en ont, numérique et sciences informatiques, alors là, c'est pareil, ça va être regroupé, bon, et voilà ce que dit la réforme, il faut que ce soit accessible au niveau académique et national. Donc, il n'y aura même pas d'obligation que ce soit dans un périmètre raisonnable. Donc, on arrive à cette situation où des élèves, s'ils veulent vraiment continuer quelque chose, ils seront obligés d'aller dans le lycée d'à côté pour ce cours-là, ou alors le professeur viendra d'un autre lycée. Et comme on est dans un contexte de réduction de postes, non-remplacement des professeurs qui partent à la retraite, le ministère va en profiter de tous ces départs de professeurs pour ne pas renouveler l'offre éducative et répartir comme ça dans les lycées, dans différents lycées, les différentes spécialités.
Oui, qui va choisir finalement l'organisation des lycées ?
Alors, justement, là, on va passer à la troisième étage, en quelque sorte, des réformes Blanquer, c'est-à-dire que Blanquer a annoncé un nouveau projet de loi qui s'appelle « Pour une école de la confiance », et qui d'abord va autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance pour faire une réforme territoriale. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 28 académies, et on va passer à 13 académies, c'est-à-dire une académie par région. Pour nous, ça veut dire une seule académie pour Lyon, Grenoble, Clermont. Vous voyez déjà l'étendue de l'académie. Et chaque académie pourra être organisée différemment, et adapté selon les besoins des entreprises, bon, au local.
Donc on risque d'avoir aussi un rôle important des régions,
bien entendu.
Les conseils régionaux.
Voilà, les conseils régionaux.
Puisqu'ils ont un rôle dans les lycées et également dans l'apprentissage et la formation.
Ils vont avoir beaucoup plus de pouvoir pour la réorganisation de l'enseignement. Ensuite, Blanquer a beaucoup parlé de la scolarisation. Il a décidé dans cette loi que la scolarisation devient obligatoire à 3 ans. Bon, ça, c'est une mesure d'affichage pour soi-disant vaincre l'échec scolaire. Or, il faut savoir que 98,9% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés. Alors, pourquoi fait-il ça ? Parce qu'en fait, vous savez que les communes sont obligées de financer l'enseignement obligatoire, donc à partir du CP. Et là, elles vont être obligées de financer aussi les écoles privées. Et le gouvernement annonce 100 millions de crédits qui vont être répartis, 50% pour le public, 50% pour le privé. En maternelle, actuellement, dans beaucoup de maternelles, les effectifs explosent. Il y a des classes à plus de 30, 31, et les familles et les gamins n'en peuvent plus. Donc c'est un boulevard pour les écoles privées qui, évidemment, additionneront l'argent donné par l'État plus l'argent des financements qui viennent de X ou Y endroits. Avec Parcoursup, on a soi-disant, enfin, le ministre dit qu'effectivement, il faut régler l'échec scolaire, etc. Mais là, effectivement, il est en train de mettre en place un dispositif qui va orienter, enfin, qui ouvre un boulevard pour le privé, avec une dégradation de l'enseignement public de plus en plus importante, et dans le même temps, donc, une croissance pour le privé. Ensuite, dans cette loi, on va recourir à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y aura une possibilité pour une école privée ou publique de déroger au code de l'éducation pour des expériences pédagogiques, c'est-à-dire pour répartir différemment les horaires selon les matières, pour annualiser ou pour avoir un usage de l'outil numérique, etc., pour faire appel à des partenaires. Mais les partenaires, c'est qui ? Ça peut être des parents, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises. Le ministre aussi annonce la mise en place d'un conseil de l'évaluation qui sera directement sous son autorité, qui va être chargé d'évaluer l'organisation, les établissements. C'est-à-dire qu'il va y avoir des évaluations nationales pour les élèves de CP, de CE1, de 6e, etc. Et à côté de cela, il va y avoir des évaluations des établissements, des sortes d'audits d'établissements. Et à la clé, eh bien, les établissements qui ne mettront pas en place les mesures qui sont dictées nationalement, ou ils seront plus ou moins sanctionnés. C'est-à-dire qu'on évaluera les équipes d'enseignants. Ceux qui se conforment bien effectivement aux directives et ceux qui se conforment moins bien. Ensuite, il y a un passage dans cette loi qui dit qu'il faut innover, c'est-à-dire que les collectivités, les régions, les départements, les communes pourront participer à la création et au financement d'établissements scolaires du premier degré, c'est-à-dire des écoles, ou du second degré, c'est-à-dire des collèges ou des lycées. Donc ce qui veut dire qu'on va vers la mise en place d'écoles ou de collèges ou de lycées régionaux directement sous la coupe, on disait tout à l'heure, donc des régions. Et on va pouvoir aussi faire appel à des fonds européens. Il faut savoir qu'à Lyon, justement, on parlait des élèves allophones. Les trois années précédentes ont été ouvertes des classes pour élèves allophones avec des fonds européens. Mais ces classes ne pouvaient pas faire appel à des profs fonctionnaires. Ils ont donc recruté des profs auto-entrepreneurs. Et au niveau de notre syndicat, on s'est bagarré justement pour que ces profs auto-entrepreneurs puissent devenir profs d'éducation nationale. On n'y est pas arrivé. Donc ils ont fermé ces classes, ils en ont ouvert d'autres à la place. Mais ça veut dire qu'avec des fonds européens, eh bien, ça sera des profs du privé ou des profs auto-entrepreneurs qui vont enseigner dans ces structures.
On parlait de la casse du statut, arriver à avoir des enseignants qui soient auto-entrepreneurs.
Tout à fait. Et donc, on va petit à petit, par cette addition de mesures, vers la destruction du statut de fonctionnaire des enseignants. Par exemple, le ministre annonce qu'il va faire appel aux AED, c'est-à-dire des surveillants, pour effectuer des fonctions pédagogiques ou d'enseignement. C'est-à-dire que ces jeunes, ils feraient du co-enseignement, puis après ils prendraient des classes en responsabilité. Donc la conséquence, c'est que ça va se faire au détriment de leurs études, parce qu'ils sont en licence 2 ou en 3e année de licence, et je ne vois pas comment on peut aller enseigner en classe ou prendre des classes en responsabilité, puis faire des études correctes, quoi.
Non, puis c'est un moyen, on n'embauche pas de vrais profs.
Voilà, c'est le moyen de remplacer des profs, effectivement, à bon compte, parce qu'ils seront payés bien moins cher. Le concours et la formation sera modifié. Alors là, on n'a pas donné d'informations précises, mais dans ses ouvrages, Blanquer, il a déjà donné pas mal d'informations. C'est-à-dire que les épreuves écrites seraient en licence 2 ou en licence 3, les épreuves orales seraient 2 ou 3 ans plus tard. Et les jeunes, futurs profs, ils se formeraient à leurs frais parce qu'ils seraient embauchés comme contractuels. Alors qu'actuellement, quand on a le concours, on a droit à une année de formation payée par l'État puisqu'on est fonctionnaire stagiaire. Donc c'est une profonde mise en cause des garanties statutaires des enseignants, auxquelles s'ajoute l'appel de plus en plus important à des profs contractuels, c'est ce qu'a annoncé le ministre, auxquelles s'ajoutent aussi d'autres dégradations avec la réforme des retraites qui s'annonce et la casse du statut, la casse du code des pensions. Et on va donc vers une situation de dégradation complète avec des conséquences très dures pour la jeunesse et des conséquences très dures pour les enseignants aussi.
Donc en fait, on arrive à moins d'adultes prévus quand même dans les établissements, hein, puisqu'il y a des suppressions de postes. À terme, des enseignants qui seraient d'abord des contractuels, donc des personnes corvéables à merci, parce que quand on est contractuel, effectivement, on accepte un certain nombre de choses plus facilement. Avec des enseignants, donc comme vous le disiez tout à l'heure, multitâches, multicompétents, entre guillemets, devant aussi préparer les orientations des élèves, etc. Donc en fait, on dévalorise la profession initiale dans cette.
Tout à fait. Alors, au niveau d'émancipation, eh bien évidemment, face à une telle offensive, il faut des réactions très importantes. Et nous pensons qu'il faut que se réalise l'unité la plus large pour le retrait de ces réformes. Et il faut d'abord qu'il y ait des mots d'ordre clairs, à savoir exiger le retrait pur et simple du projet de loi Blanquer, c'est ce qu'on dit dans notre syndicat, l'arrêt immédiat des mesures qui sont déjà prises et leur abrogation. Et ça implique aussi de cesser de cautionner ces plans, parce que tout à l'heure on parlait du nouveau dialogue social, mais justement ce dialogue social il se poursuit, c'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des réunions avec le ministère sur toutes ces questions. Et nous considérons, nous, qu'on ne peut pas être d'un côté dans les réunions pour cautionner, dans quelque sorte, les propositions du gouvernement, et de l'autre côté, les combattre. Et une partie de ce que nous disons dans les syndicats, c'est qu'effectivement, il faut rompre ce dialogue social, réaliser l'unité sur des mots d'ordre clairs. Sinon, on va se retrouver dans la situation où se sont retrouvés les cheminots l'année dernière, où effectivement, ils ont voulu se mobiliser pour la défense de leur statut, mais en même temps, les concertations n'ont jamais cessé. Et finalement, ils ont échoué à maintenir effectivement ce statut. Voilà notre, en quelques mots, ce que nous défendons dans les organisations syndicales.
Eh ben merci Claire, merci Hélène. C'est un sujet.
Merci de nous avoir informés, ouvert les yeux sur effectivement un danger qu'on ne soupçonnait pas en lisant les journaux et en écoutant les médias.
On en a beaucoup entendu parler parce qu'il y a eu quand même beaucoup de réactions. Mais effectivement, toute cette désorganisation de l'enseignement à des fins finalement de politique libérale, faut dire les choses, avec des modèles donc tout à fait issus de politique libérale. Et je crois qu'effectivement, il y a peu de personnes qui en ont vraiment conscience, parce que on ne le sait pas vraiment.
Et c'est vrai que Parcoursup, on nous l'a proposé comme on change un outil. Un outil, c'est pas forcément une politique, des principes, des orientations. Là, on voit que c'est vraiment des grands principes de casse, que ce soit sur la question, on a dit, de l'égalité pour les jeunes, l'égalité territoriale aussi, et du statut et du métier d'enseignant.
Puisqu'on attend aussi de l'éducation.
C'est un véritable changement d'époque qui est proposé. Et merci encore une fois
à TAC
pour avoir permis de nous exprimer sur ce sujet.
Voilà, à bientôt.
Et donc à dans 2 semaines. Et on vous laisse avec le Canu Info.